Maurice Leblanc, le fils aux Duramet. Victor Duramet et sa femme achevaient leur souper, des tranches de pain recouvertes d'une mince couche de beurre où apparaissaient d'énormes grains de sel. Un bout de chandelle fixée sur la table éclairait confusément les poutres basses du plafond, les murailles nues, le sol inégal, le vaisselier boiteux, la cheminée noire et sans ornement. Au fond de la pièce, dans un berceau d'osier, un enfant dormait, un garçon que, 15 jours auparavant, le ménage avait déclaré sous le nom de Charles. Il s'était marié l'an passé. Un mois après, Duramet perdait son père et héritait d'une ferme à Fauberville et de quelques lopins de terre situés sur la route d'Yport aux Ifs. Et ils peinaient tous deux, attelés côte à côte, lui fort, bien bâti, de gestes lents et d'esprit borné, elle, sèche, taciturne, à proguin, infatigable. Leur première récolte avait mal rendu, une de leurs vaches était morte. Et peu à peu, ils se sentaient acculés, étreints, vaincus par la misère. De tous côtés, elle les assaillait, la grande ennemie. Ne leur fallait-il pas encore engager un valet, maintenant que Césarine, obligée de nourrir, laissait de l'ouvrage en souffrance? Cette nécessité immédiate les effrayait surtout. Ils en parlaient ce soir-là, agitaient la question, calculaient avec terreur ce que leur coûterait cette charge imprévue. Des cris s'élevèrent. Césarine se dirigea vers le berceau, saisit le poupon, se rassit et lui tendit le sein. Il y eut un long silence que scandait seul le bruit doux de la tétée. Soudain, des pas retentirent dehors, puis la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, un monsieur qui portait un paquet dans ses bras. Il s'arrêta, inspecta d'un coup d'œil les deux paysans, la salle, le nourrisson, et demanda « C'est bien vous, les Duramet ?» Victor, vaguement inquiet, hésita. Mais Césarine répondit « Oui, monsieur, c'est nous, les Duramet !» Aussitôt, l'inconnu s'approcha d'elle et déposa sur ses genoux un tas de langes. « Défaites vite, dit-il en souriant. C'est un enfant, un garçon comme le vôtre. » Ça vous en fera deux, la mère, si vous y consentez. » Elle ne bougeait pas, interdite. Cependant, comme il insistait, elle écarta les langes. Un être apparut, un morceau d'être qui se mit à crier, réveillé par le froid. Alors, d'un geste machinal, elle l'attira contre sa poitrine, à la place inoccupée, et l'enfant s'abreuva goulûment à la source de vie. L'homme prononça d'une voix triste. « Vous voyez ? Il s'habitue déjà. Il oublie sa maman. » Il resta quelques secondes à regarder ce spectacle, les yeux humides. Puis, secouant sa torpeur, il s'expliqua rapidement, à phrases courtes et nettes. « Soyons brefs, je n'ai que peu de temps. J'ai su que vous étiez pauvre, jeune, bien portant, travailleur. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Vous avez un enfant, voulez-vous du mien ? Voici les conditions. Tous les trimestres, à partir d'aujourd'hui, vous irez à Fécamp toucher 300 francs chez le notaire Maître Loisel. Vous irez avec le petit, n'est-ce pas ? Avec le petit. Sinon, l'on ne vous donnera rien. Vous l'élèverez comme le vôtre, vous les enverrez à l'école ensemble, plus tard même au collège si cela vous convient. Dans ce cas, le notaire paiera les frais. Enfin, à sa majorité, une somme de 20 000 francs lui sera remise pour s'établir. Est-ce conclu ? Ils écoutaient, le visage stupide, ne comprenant pas. Tous ces chiffres bourdonnaient à leurs oreilles. Il dut recommencer. Puis il ajouta « Désormais, vous n'entendrez plus parler de moi. Vous raconterez l'aventure à votre façon. Je vous conseille cependant de dire la vérité. Cela m'est indifférent, j'ai pris mes précautions. Allons, soyez francs, oui ou non ?» Ils ne répondirent pas. Une sorte de défiance envahissait leur esprit soupçonneux de paysans. Ils ne croyaient pas à cette fortune inespérée qu'on leur offrait. Victor balbutia. « Oui, certes, je vous l'embins, mais qu'est-ce qui me prouve que je trouverai l'argent chez le notaire ? Je crains qu'un bout de papier, un bout d'écriture, quoi, ferait pas mal. » L'homme impatienté s'écria. « Pourquoi faire ? Si l'on ne vous paie pas, vous abandonnerez le petit. » Du reste, voici un trimestre d'avance. Il étala 15 louis sur la table. La vue des pièces d'or convainquit les époux. Duramet, subitement expansif, déclara « Conclu, monsieur, conclu. J'en aurons ben soin. Czarine aussi, allez, c'est une rude femme. » L'étranger se pencha vers son fils, l'embrassa une dernière fois, puis en se relevant « Vous l'appellerez Marcel, n'est-ce pas ?»« Marcel, » dit-il. Et sans un mot de plus, il partit. Le premier trimestre évolu, ils confièrent leur charlot à une voisine. Césarine se chargea de Marcel et ils se rendirent à Fécamp, anxieux sur le résultat de l'entrevue. L'accueil de Maître Loisel les rassura. Il se fit montrer l'enfant, s'enquit de sa santé, de son frère de lait, et finalement tira de son bureau 3 billets de 100 francs. Victor signa un reçu et les empocha. Dès lors, ils connurent l'aisance. Ils embauchèrent un valet. Les terres mieux cultivées rapportèrent davantage. Les pièces de 100 sous affluèrent. Les deux poupons prospéraient, devenaient gros, forts, joufflus. Césarine les soignait également, plus attentive encore auprès de Marcel, qui représentait, lui, le bien-être de la famille, tout un avenir tranquille et sans souci. L'histoire s'était vite répandue aux environs. Il l'avait colportée de droite et de gauche, en cachant cependant le montant de la rente. Et il prenait, quand on les questionnait à ce sujet, des airs mystérieux, se refusant à préciser la somme. Ces cachotteries excitèrent l'imagination des commères et l'on avança des chiffres fantastiques, on parla d'une véritable fortune. Or, un jour, Victor gaulait des pommes lorsque, tout à coup, il entendit des appels désespérés qui sortaient de la chaumière. Il accourut. Césarine, affolée, se débattait sous le buffet, le vieux buffet branlant qui s'était abattu sur elle. Il dégagea sa femme et redressa le meuble. Alors, parmi les assiettes brisées, il aperçut quelque chose d'informe, d'étrange. Il se courba. C'était le petit Marcel, frappé à la tête, mort. Son sang coulait. Duramet recula, muet d'épouvante, les yeux hagards. La table que ses mains rencontrèrent l'empêcha de tomber. Ses lèvres, agitées d'un tremblement nerveux, bégayèrent. « L'argent ! L'argent !» Mais il entendit Césarine qui geignait dans un coin, blessée elle aussi. Une rage le prit et il se rua sur elle. « Salope, va, canaille, c'est ta faute à t'es, pas par rien. Qu'est-ce que tu foutais donc ?» Il abattit à grands coups de poing, puis il s'assit à côté d'elle et ils se turent. Un quart d'heure s'écoula. Il pensait à peine, le cerveau détraqué par la douleur. De temps à autre seulement, l'un d'eux murmurait « Mort ! Mort !» Et ce mot signifiait tout pour eux, la rente supprimée, leurs économies perdues, les dettes prochaines, la gêne, la misère. À leurs pieds gisait le cadavre. Ils ne songeaient même pas à le laver, à l'habiller, à le coucher. Enfin, Césarine prononça. « Je m'en allais quérir la mèche vachue, elle veille les défunts !» Elle se dirigea vers la porte. En 3 enjambées, Victor fut près d'elle. Il lui empoigna le bras. « Espère, espère un brin. Je crée que je tiens une idée, une fameuse !» Il réfléchit, puis s'expliqua. Elle se révolta d'abord, mais l'idée la tenait à son tour. Ils se rassirent et causèrent à voix basse longtemps. Quand le valet de ferme revint, il trouva Césarine à genoux devant le berceau et Duramet pleurant la tête entre ses mains. Il demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Victor gémit. « C'est notre fils qui est tué, notre pauvre fils, notre fieu à nous, notre petit Charlot. C'est-il pas de la malchance, ce cochon de buffet, qui tombe dessus lui, comme si qu'il pouvait pas tomber, être sus autres, sus étrangers ?» Le lendemain, Victor se rendit à la mairie et déclara le décès de son fils, Pierre-Césaire-Charles Duramet, âgé de 10 mois. Ils continuèrent leurs voyages à Fécamp. À la première visite, Césarine pinça l'enfant qui se mit à crier. Le notaire, abasourdi, les expédia rapidement. En outre, pendant plusieurs mois, dès qu'un voisin entrait chez eux, ils portaient Marcel, ils appelaient ainsi leur fils maintenant, dans une autre chambre dont il fermait la porte à clé. Personne ne se douta de la substitution. Ils vécurent heureux, riches, jalousés. Ils arrondirent leurs terres, triplèrent le nombre de leurs bestiaux. En peu d'années, Victor devint le plus gros fermier de Frobertville. Dès que Marcel fut en âge, on le conduisit à l'école. Ses camarades, qui savaient vaguement le mystère de sa naissance, le traitèrent avec une nuance de considération, comme s'il eût été d'une race différente de la leur. Et lui-même, en grandissant, affecta vis-à-vis d'eux des airs de supériorité qui leur en imposaient. Les Duramet, d'ailleurs, développaient sa vanité par les égards successifs dont ils entouraient leur fils. Ils tremblaient qu'il n'eût le même sort que le vrai Marcel, le Marcel qu'on leur avait confié. Ils l'aimaient, certes, de toute leur affection de père et de mère, mais plus encore, ils l'aimaient de toute leur cupidité. Il était la source de leur fortune, et cette fortune, il fallait la garder en surveillant la vie de l'enfant. Aussi, il le choyait, le dorlotait, s'inquiétait à tout moment de sa santé. « T'foule pas trop, mon gars !» disait-il. « T'auras de quoi ?» Il l'empêchait de rendre ses menus services que les petits paysans rendent chez eux. Et une fierté les prenait à contempler ce grand garçon qui bâillait d'un air ennuyé. « Il nous rapporte plus en ne fichant rien, le feignant !» s'exclamait Victor. « Que tous ces morveux qui triment de leurs deux mains !» Lorsqu'il eut 11 ans, les Duramet consultèrent M. Loisel. Le notaire fut d'avis de l'envoyer au collège. Il ajouta « C'était le vœu de son père. Si mon fils montre des dispositions, poussez-le vers une carrière libérale, m'a-t-il dit. » Victor insinua « Où est-ce qu'il est, son père ?» Le notaire répondit sèchement « Inutile d'en parler, son fils ne le connaîtra jamais. » On choisit le lycée du Havre. Des années passèrent. Excité par l'amour-propre, souvent blessé par ses camarades qui se moquaient de ses expressions de campagnard, Marcel travailla, fit des progrès sérieux et continus. D'une intelligence lourde mais tenace, il remportait plusieurs accessits chaque année. Ses succès accrurent l'ambition des Duramet. Les deux mots de M. Loisel, carrière libérale, les avaient éblouis. Ils choisirent le barreau. « Hein ?» se répétait-il. « Notre fieux avocat, notre fieux plaidant pour nous, si j'avons un procès ?» Marcel obtint son diplôme de bachelier, puis revint à Frobertville en attendant l'époque de son volontariat. C'était un gaillard solide, fat, aux allures communes, au visage rougeau, à l'accent traînant. Les Duramet le regardaient avec extase. Ils admiraient ses moindres gestes, ses moindres paroles. Quant à lui, il leur témoignait une bienveillance un peu dédaigneuse. Il les considérait comme de braves gens, de bons villageois qu'il avait élevés, qu'il appelait encore papa et maman par habitude, mais auprès desquels il ne voulait pas croupir longtemps. Et il songeait à celui qu'il nommait à voix basse son vrai père, à cette famille qu'il devait avoir quelque part et dont il croyait, dans son orgueil, sentir en lui les instincts nobles, le raffinement de race. Vers le milieu de son séjour, alors qu'il fumait à la fenêtre et que Victor et sa femme buvaient leur café, il aperçut une voiture qui s'arrêtait devant la barrière de la ferme. Un homme en descendit, poussa la porte et traversa le verger. Les Duramet avertis se levèrent. Au même moment, l'individu apparut sur le seuil de la pièce. « Eh bien, fit-il gaiement, l'on ne me reconnaît pas ici ?» Il n'attendit pas la réponse. Il venait de remarquer le jeune homme et, s'adressant à lui, il demanda avec une sorte d'émotion. « C'est vous, Marcel ?» Celui-ci, surpris, répliqua. « Oui, c'est moi, monsieur... monsieur... » L'étranger ajouta. « Monsieur de Berville, votre... » Des cris l'interrompirent. C'était Victor qui jurait. « Nom de Dieu, c'est le paix, pour sûr, c'est le paix !» Et il se mit à trembler, tandis que ses yeux s'ouvraient démesurément, comme agrandis par une vision horrible. Césarine murmura. « Oui, c'est le paix, pour sûr, c'est lui !» Puis l'apostrophant violemment. « Qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez dit comme ça, on ne reverra pas. Pourquoi que vous revenez ?» Il répondit simplement. Je viens chercher mon fils Marcel. N'est-ce pas, Marcel, vous ne refusez pas de me suivre ? » Mais une timidité invincible paralysait le jeune homme. Il avait rêvé une scène plus dramatique, une reconnaissance comme elles ont lieu au théâtre. Et tout à coup, il se jeta dans les bras de M. de Berville. « mon père, je vous retrouve !» M. de Berville se dégagea doucement et dit avec un sourire. « Bien, bien, je vois que nous nous entendrons. Apprêtez-vous, je vous emmène. » Césarine bondit entre eux et proféra.
« Vous en allez ? L'emmener comme ça, notre Marcel, notre fils ?»
Il répartit l'air heureux tout en contemplant ce grand garçon qui vivrait enfin près de lui et dont il ferait un homme. « Votre fils, dites plutôt le mien !» Elle s'écria hors d'elle.
« Votre fils, c'est là ? Non, je vais tout vous raconter, mais tant pis, je veux pas qu'il parte !»
Victor l'arrêta d'un regard et déclara d'un ton doucereux.
« Je dis pas non, je dis pas non, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes paix ?»
Monsieur de Berville attribua cette mauvaise volonté au chagrin qu'ils éprouvaient à se séparer de Marcel, et, complaisamment, il sortit de sa poche une liasse de papier. « Tenez, mon brave, voici les reçus de vos trimestres. » Victor baissa la tête. « Allons, vite !» reprit l'étranger. « Vite, Marcel, il faut se décider. » Laisse tous tes vêtements, mets ton chapeau et ton pardessus, c'est suffisant. » Le jeune homme obéit. Il y eut un court silence. Puis M. de Berville prononça d'une voix affectueuse. « Ainsi, votre enfant, votre pauvre Charles, est mort ?» Victor répliqua sourdement.
« Oui, il est mort, notre enfant. »
Une fois prêt, Marcel tendit son front à son père.
« Adieu, papa Duramé. »
Ensuite, il embrassa sa mère.
« Au revoir, mère Duramé, je vous écrirai bientôt. »
Puis il saisit le bras de M. de Berville et ils s'en allèrent. Les deux paysans ne bougèrent pas, anéantis, le cœur brisé. Césarine sanglotait. Victor, farouche, écoutait le roulement lointain de la voiture. Soudain, il avisa sur la table une enveloppe. Il l'ouvrit. Elle contenait 5 billets de 1 000 francs. Son regard brilla. Il articula.
« Dis donc, femme, il y a de l'argent !»
Césarine ne répondit pas. Alors, à son tour, il sentit des larmes qui lui emplissaient les yeux. Il laissa tomber l'enveloppe. Et tous deux, dans la maison déserte, vide pour toujours, ils pleurèrent.